Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Bon, ok, c'était facile. Mais c'est pas tous les jours la fête de la musique, c'est pas tous les jours le 21 juin, c'est pas tous les jours l'été. Celle-là n'est pas complètement avouable, mais on l'aime bien quand même. Ah non, celle-là, ça va trop loin. Alors là, Francky Vincent, ça va trop loin. C'est la fête de toutes les musiques, mais par exemple de ça aussi. Le Stabat Mater de Vivaldi. Profitez bien de cette fête de la musique, dans le respect des gestes sanitaires, tout ça, mais profitez. De l'actu, mais aussi du plaisir, c'est le programme pour les deux heures qui viennent. C'est RTL Soir. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres de l'actualité de ce lundi 21 juin. Donc.
Et à la une ce soir, les dernières tractations au lendemain du premier tour des régionales. Union de la gauche en Ile-de-France, Front républicain en PACA. On fait le point dans un instant. On essaiera aussi de comprendre pourquoi les jeunes se sont abstenus. Ils sont presque 9 sur 10 à ne pas être allés voter hier. Dans ce journal également, la reprise du procès des harceleurs de Mila. Et puis, le premier gros coup dur pour l'équipe de France de foot. Ousmane Dembélé est forfait.
La météo, bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Bien, puisque l'été est là, le temps devient instable.
Oui, c'est ça, exactement. Enfin, c'est logique. Et déjà pour la fête de la musique dont vous parliez, là ce soir, elle risque d'être gâchée dans pas mal d'endroits, notamment dans le nord-est, là où il y a des limites orageuses qui remontent. Même sur l'île de France, hein, il y aura des averses orageuses ce soir. Il faut aller en bord de mer pour échapper probablement à ce risque que l'on retrouvera demain, effectivement, encore dans la plupart des régions, avec des éclaircies, des passages nuageux, des averses et parfois des orages. Alors un peu plus rare qu'aujourd'hui. Surtout à proximité des reliefs, donc en plein il y en aura un petit peu moins. Puis près de la Méditerranée, ben là ça sera grand soleil toute la journée. Les températures, alors là, écoutez bien, 13 à 17 degrés le matin, mais l'après-midi 16 à 20 degrés seulement dans la moitié nord. Et je parle bien cette fois-ci des maximales, 21 à 24 degrés dans le sud-ouest et 25 à 28, pas plus, près de la Méditerranée.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Les candidats qualifiés pour le second tour des régionales ont donc jusqu'à demain 18h pour déposer leur liste, plus que 24h donc pour nouer d'éventuelles alliances. C'est déjà chose faite en Ile-de-France. Les trois listes de gauche ont en effet décidé de s'unir derrière Julien Bayou, le candidat écologiste qui est arrivé troisième hier soir derrière Valérie Pécresse et Jordan Bardella. En région PACA, pas de triangulaire finalement, mais un duel LR-RN. Le candidat de la gauche Jean-Laurent Félizia l'a annoncé tout à l'heure, il se retire.
Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Depuis hier soir, je reçois des messages, des demandes de retrait, mais surtout des messages de soutien, des centaines et des centaines. L'écart entre Renaud Muselier et le candidat de l'extrême droite est hélas plus élevé que celui qui a été annoncé dans les premières heures de la soirée et nous a mis face à nos responsabilités. Il n'y avait en vérité, pas de bon choix. Dimanche, je voterai pour Renaud Muselier pour battre Mariani et sa triste cohorte.
Jean-Laurent Félizia, qui est donc arrivé troisième.
Si on met bout à bout ce qu'il disait hier soir et ce qu'il dit aujourd'hui, il y a la mer hein, quand
oui,
même.
Oui, il y a eu un sacré coup de pression aussi hein, de la part d'un certain nombre de dirigeants. Jean-Laurent Félizia, donc il était au micro RTL. Hugo Hamelin, bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Ce retrait, forcément, c'est une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement National. Une de plus, presque, j'ai envie de dire.
Oui, et pour justifier cette claque, cette contre-performance et l'abstention record, les cadres du RN blâment la terre entière, pêle-mêle, la fête des pères, les institutions, la classe politique depuis 30 ans, dixit une tête de liste. Bref, le parti se pose en victime de ce scrutin, mais peine à trouver des solutions. Le RN qui prie pour un sursaut de ses électeurs d'ici dimanche. Peut-être qu'ils se sentiront coupables, espère un élu en PACA. Il faudrait pouvoir voter sur son portable pour attirer les jeunes, imagine un autre façon science-fiction. Mais en interne, certains sont convaincus que le RN ne pourra pas faire l'économie d'un examen de conscience. Faut arrêter. On a une responsabilité en interne, s'agace un élu qui pointe le manque d'implantation locale et le discours policé de Marine Le Pen, trop à son goût. Mais faut-il y voir un coup d'arrêt du RN dans la course à l'Élysée ? pas du tout pour l'état-major du parti, persuadé que ses troupes répondront bien présents pour le scrutin suprême.
Marie Mollet du service politique de RTL, les électeurs du Rassemblement national qui se sont largement abstenus hier, plus que la moyenne. C'est le cas aussi des jeunes. 87% des 18-24 ans n'ont pas voté, 83% des 25-34 ans. Alors pourquoi ? Eh bien, Philippe Demaria posait la question cet après-midi dans les rues de Bordeaux.
Le cours du Chapeau Rouge à Bordeaux est un lieu de déambulation d'une jeunesse qui savoure déjà une saison estivale libérée. Alors, cette fameuse question sur les élections en surprend plus d'un.
Comment s'est passé le vote hier ?
Le vote ?
Les meufs.
On a dansé toute la soirée.
Non, je n'ai pas voté, moi.
Le vote de quoi ?
Et régional, comme ça.
Rien du tout, pas du tout voté.
Alors, comme pour une épreuve du bac, je demande à ces abstentionnistes de développer leurs arguments.
On ne se sent pas concerné.
On n'a pas trop eu de communication là-dessus. Après, on n'a pas été chercher par nous-mêmes aussi.
Je vote pas. Ben, tout simplement, je ne me reconnais dans aucun parti. Et je ne voudrais pas voter aussi pour le moins pire.
Manque d'infos, des candidatures peu attractives et de nombreux mouvements géographiques aussi qui compliquent les inscriptions électorales. Bon, j'ai quand même trouvé des jeunes qui parviennent à voter.
Alors, moi, j'ai fait la procuration pour ma mère parce que je suis pas du tout d'ici, c'est pour ça. Donc c'est ma mère qui a voté à ma place.
Premier vote ?
Oui, premier. Nos parents, du coup, ils vont voter. Du coup, on les suit. Ça fait rien de spécial, hein. Mais juste un papier dans une enveloppe.
Et juste un papier dans une enveloppe, finalement.
Ben oui,
c'est assez simple de voter.
Même.
Il faut le faire, il faudra le faire dimanche. N'hésitez pas. Vous pouvez déjà faire des procurations si vous n'êtes pas dispo dimanche prochain. Philippe Demaria, Bordeaux pour RTL. Cette abstention, le sens de cette abstention, le sens de ce scrutin. On en parlera dans quelques minutes avec Jérôme Fourquet, le politologue, qui sera l'invité d'RTL Soir. Pour l'heure, il est 18h06. Et dans l'actualité également de ce lundi, il y a le procès des harceleurs de Mila.
13 personnes qui comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Alice Moreno, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est vous qui suivez cette audience pour RTL. La plupart des prévenus n'ont aucun antécédent judiciaire et ils ne comprennent d'ailleurs pas vraiment pourquoi ils sont là face à un tribunal.
Oui, ils pensaient que leur tweet se perdrait dans les méandres d'Internet, mais ils doivent aujourd'hui les détailler devant une salle de 300 personnes face au juge. Une jeune femme d'une vingtaine d'années à la voix fluette hésite longuement avant de répondre aux questions du tribunal. « Quelle crève » a-t-elle écrit sur Twitter à propos de Mila ?« J'ai écrit ça, mais sans intention », se défend-elle. « Je ne voudrais jamais tuer personne », le président interpelle la prévenue. « Vous ne pensez donc pas que c'est une menace ?»« Non », répond-elle. « Eh bien, c'est très dangereux de laisser des téléphones portables entre les mains de gens comme vous », lui dit le président. La plupart des prévenus déplorent le ton vulgaire de Mila dans ses vidéos sur l'islam. Ponctuellement, la jeune femme assise sur le banc des parties civiles secoue ses cheveux teints en vert, hoche la tête en signe de désapprobation. Un seul prévenu a présenté ses excuses à Mila. « Pardon pour la vulgarité de mes propos », lui dit-il les yeux dans les yeux. Des regrets sur la forme, oui, mais pas sur le fond. Quand il disait de Mila que c'était une mal baisée, il usait seulement de sa liberté d'expression, pense-t-il. Et deux jours d'audience au tribunal de Paris pour quelques messages sur Twitter. Il considère que c'est un spectacle, une supercherie.
Alice Moreno, palais de justice de Paris pour RTL. Ce procès doit durer jusqu'à demain. Les prévenus, eux, on le rappelle, risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Plusieurs soldats français ont été blessés aujourd'hui au Mali, dans le centre du pays. Ils ont été victimes d'une attaque à la voiture piégée contre leur véhicule. Plusieurs civils ont également été touchés.
On marque une courte pause et dans un instant, la bonne nouvelle du jour. Les boîtes de nuit ont enfin une date de réouverture. Louis Baudin respire.
Il est sur le dance floor.
Il est déjà idé.
Je suis prêt.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Sotto.
Il est pile 18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Les patrons de discothèques ont le sourire ce soir.
Oui, après presque 16 mois de fermeture, ils vont enfin pouvoir rouvrir. Ce sera à partir du 9 juillet. Alors, pas tout à fait comme avant. Il va falloir présenter un pass sanitaire. La jauge en intérieur sera réduite à 75%. Mais le masque, lui, ne sera pas obligatoire. Thierry Fontaine préside la branche nuit de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Cette ouverture est une grande bouffée d'oxygène pour nos professionnels. C'est un message fort aujourd'hui que le président de la République a donné à l'ensemble de la jeunesse et à l'ensemble des secteurs. Si on ne veut pas de masque à l'intérieur, on est bien conscient que le virus est toujours là. Donc le pass sanitaire est une possibilité de retourner à une ambiance festive de nos établissements. La jauge à 75%, elle aussi, était primordiale puisqu'elle permet d'avoir suffisamment de monde dans nos établissements pour que la rentabilité soit présente. On ira de l'avant avec des allègements petit à petit. Ça permettra à ceux qui ne peuvent pas rouvrir, en tout cas au 9 juillet, de se préparer à la reprise pour que septembre soit un bon mois et une belle reprise.
Propos recueillis pour RTL par Juliette G. Et à 18h35, c'est Jean Roch, hein, le roi des nuits tropéziennes notamment, je crois,
ben oui,
qui sera avec nous à 18h35. Donc.
Et en attendant ce 9 juillet, on va quand même pouvoir danser dès ce soir. C'est aujourd'hui, vous le disiez Thomas, la fête de la musique.
Ah bon,
on va tout de suite partir dans le bois de Vincennes où nous attend Sébastien Rouxel. Sébastien, c'est concert électro là-bas depuis ce matin, 11h.
Oui, et vous l'entendez sans doute, ils sont toujours à fond autour de moi sur l'herbe. Il y a 150-200 personnes qui agitent leurs bras en l'air au rythme de la musique. Une foule assez compacte où j'aperçois David et Alexandra.
Ça fait longtemps que je n'avais pas dansé, donc ça me fait extrêmement du bien. Il faut profiter, quoi. C'est comme si vous retrouvez votre liberté, c'est un poids que vous retirez comme ça. Vous avez perdu une tonne, comme ça, en façon de parler, quoi.
Ça fait énormément plaisir de retrouver la vie d'avant, quoi.
Face à eux, une petite cabane en bois où plusieurs DJ se relaient. Derrière la table de mixage, Nena affiche un large sourire. Elle n'avait pas joué devant un public depuis plusieurs mois.
Ça fait un bien phénoménal de retrouver les gens comme ça. Je suis aux anges. Bah, je me régale.
Ça fait plaisir de voir autant de monde.
Ça fait énormément plaisir. On revit.
Alors ici, le concert doit prendre fin vers 22h, mais la plupart des fêtards que j'ai rencontrés vont se diriger ensuite vers Paris pour trouver un autre endroit où danser jusqu'au bout.
Dis donc Sébastien, ça a l'air mélodique comme musique quand même derrière vous là.
Ah, c'est électro, c'est hein, électro, faut aimer.
Allez, un petit Doliprane et ça ira bien ce soir. Merci beaucoup à vous.
On passe au foot et l'info a été confirmée tout à l'heure à la mi-journée. Les Bleus vont donc devoir continuer l'Euro sans Dembélé. L'ailier est forfait après sa blessure au genou samedi face à la Hongrie. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
C'est le premier gros coup dur de la compétition pour l'équipe de France.
Oui, pauvre Ousmane Dembélé, a-t-on envie de dire, Dembouze, le maudit, 10e blessure en 4 ans, rendez-vous compte cette fois-ci. C'est un coup reçu derrière le genou en fin de match face à la Hongrie qui a occasionné une grave lésion au biceps fémoral droit. Au moins 3 semaines d'absence, Euro terminé donc pour l'un des jokers d'attaque, joker de luxe des Bleus et garçon ultra apprécié au sein du vestiaire. Une vraie perte pour le défenseur Lucas Digne.
Très triste et très déçu pour Ousmane parce que c'est un super mec et c'est un super joueur aussi. Et c'est quelqu'un qui amène énormément de joie dans le groupe et qui amène sa qualité sur le terrain aussi. Donc forcément, c'est une très grosse déception pour nous.
Nombreux messages de soutien également sur les réseaux sociaux de son ami dans la vie, Kylian Mbappé, mais aussi Karim Benzema ou Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé qui a physiquement quitté Budapest cet après-midi, direction Barcelone, où le staff médical du Barça, en lien avec celui de l'équipe de France, envisagerait déjà une opération qui pourrait repousser à plusieurs mois la date de son retour sur les terrains.
Et Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Budapest, Portugal-France, on le rappelle, ce sera mercredi après-demain à 21h. En ce moment même, c'est le groupe C qui joue. L'Ukraine affronte l'Autriche. On est à 0 partout après 14 minutes de jeu, 0 à 0, pardon, on ne dit pas 0 partout, 0 oui, à 0 également. Entre la Macédoine et les Pays-Bas, ce soir, la Finlande va tenter sa chance face à une Belgique qui elle est déjà qualifiée, puis la Russie sera face au Danemark. Tout ça, ce sera bien sûr à suivre sur RTL, RTL Foot spécial Euro, c'est dès 20h45.
Et la bonne nouvelle pour finir.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et il y aura bien du public pour soutenir les athlètes aux JO de
très
Tokyo.
Sport, hein, vous, ce soir.
Alors, ce ne sera pas comme ça. Hein. Pas de stade plein. Non, la jauge est limitée à 50% sur chaque site, dans la limite de 10 000 personnes maximum. Mais c'est déjà ça. Les JO, on le rappelle, ça commence le 23 juillet, dans un mois. Oui, je suis très sport, mais c'est sympa, non ?
Oui, c'est très bien.
Bon, hein, vous êtes très musique, vous ?
Pourquoi voilà, vous dites ça ? Merci, à tout à l'heure, Amandine, 18h30. Le champ électoral a été laminé par l'abstention hier. Quelle conclusion tirer malgré tout de ces résultats ? Le politologue Jérôme Fourquet est donc l'invité d'RTL Soir et c'est tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Comprendre à froid pourquoi 2 électeurs sur 3 ont choisi de snober les urnes hier, c'est entre autres ce que l'on va faire avec Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département opinion à l'IFOP. Il est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Ce chiffre-là, 66,74% d'abstention, ça veut dire près de 7 électeurs sur 10 qui ne sont pas allés voter, il vous dit quoi aujourd'hui, 24 heures après ?
Il nous dit que nous sommes face à une désaffection démocratique et civique majeure. Vous vous souvenez qu'il y a un an, au moment des municipales, qui sont habituellement un scrutin que les Français fréquentent, si je puis dire, eh bien l'abstention avait été massive. On avait mis ça...
Et vous nous disiez sans doute qu'on est face à une désaffection politique majeure.
Non, on avait mis ça à l'époque sur le compte du Covid. La peur de la contamination, notamment au premier tour. Mais l'abstention avait été massive. Et on s'était demandé si c'était uniquement la faute au Covid ou s'il n'y avait pas autre chose. Eh bien, on a eu la réponse depuis hier soir, il y avait autre chose. Il y a manifestement un palier supplémentaire qui a été franchi dans cette désaffection.
Désaffection ou crise ? On est face à une crise politique ?
Alors, bah une crise, oui, parce que à partir du moment où 2 Français sur 3 ne vont pas voter, la légitimité de ceux qui sont élus est affaiblie d'autant. 2 Français sur 3, c'est une moyenne. Quand on regarde nos chiffres, on a plus de 80% d'abstention sur les moins de 35 ans. Mmh. Donc si on poursuit les courbes, on voit bien que la France de demain entretient d'ores et déjà un rapport qui est complètement différent aux politiques que celui qui était entretenu par les générations les plus âgées. Et générations les plus âgées qui ont été relativement plus nombreuses à aller voter dimanche dernier. Et donc on est passé à autre chose. Et je relirai ça, donc ces phénomènes d'abstention qui progressent de manière continue, à la crise des Gilets jaunes, au mouvement de dégagisme auquel on a assisté à la
fin. Ça, c'est valable aussi pour ces jeunes dont vous nous parlez, qui sont presque 9 sur 10 parfois à ne pas être allés voter. Ça, c'est aussi le dégagisme, c'est aussi les Gilets jaunes, ou c'est simplement que le courant n'est pas établi entre la jeunesse d'un côté et les politiques de l'autre ?
Alors, c'est cela, c'est-à-dire que le vieil écosystème sur lequel on fonctionnait, avec le rôle central accordé à l'acte de vote,
oui,
aujourd'hui semble un petit peu comme une langue morte ou obsolète pour une part croissante,
ça leur dit rien,
de nos concitoyens. C'est, oui, un peu une, voilà, du grec ancien pour certains. Je pense qu'on va voir les audiences d'un certain nombre d'émissions. On voit aussi l'attrait pour des couvertures de magazines quand elles traitent de sujets politiques. Vous parlez avec des rédacteurs en chef, ils disent en, oui, ce moment ça ne vend pas trop. Mais c'est un phénomène au long cours. Hein. J'ai regardé les chiffres lors des régionales de 1992, donc c'est il y a 30 ans, mm-hmm, c'est les deuxièmes élections régionales. On a 68% de votants.
De votants. C'est-à-dire qu'on a inversé,
en
ans, fait, les votants,
on a inversé le ratio.
Ouais.
Donc ça dit quand même beaucoup de choses. Ce qui se passait aussi, parce que pour arriver à une abstention aussi forte, il n'y a pas une cause unique. Il y a eu des problèmes d'organisation, on, mm-hmm, a parlé des professions de foi qui n'étaient pas arrivées, il n'y a pas eu de grand meeting, il n'y a pas eu de tractage de manière systématique.
C'était une élection à bas bruit. Hein.
À bas bruit, donc voilà. Mais on a aussi le fait que, habituellement, une élection régionale, comme une élection municipale, c'est l'occasion de sanctionner le pouvoir en place au niveau national. Mmh. Vous vous souvenez, lors des précédentes élections régionales ou municipales, on a des belles cartes de France où on compte le nombre de régions roses, de régions bleues,
oui, oui, oui,
combien de territoires ont été gagnés par l'un ou par l'autre. Ce mécanisme-là aussi est faussé, puisque le parti présidentiel n'avait pas de sortant. Et donc, tous nos réflexes...
En gros, si on n'est pas passionné de politique, il n'y avait aucune raison de s'intéresser à ce scrutin. C'est
très,
ce
très, peu, très, très peu.
Quand on est jeune, qu'on vit sa vie ailleurs, qu'on est déconnecté, tout ça. Voilà. Jean Castex, le Premier ministre, a tweeté sur cette abstention. « Faire gagner l'abstention, c'est faire perdre la démocratie. Nous devons tous collectivement la combattre. Ce n'est pas une formule, mais une exigence républicaine. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous nos concitoyens. À vous toutes et tous, dimanche prochain, votez. » Bon, pas sûr que ça suffise à remplir les, non, bureaux de vote dimanche. Comment on les fait revenir ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet retour, en quel on dit, oh là là, on a un peu déconné dimanche dernier, on va y retourner dimanche,
moi,
prochain.
Je pense que ça ne se fait pas en une semaine.
Non.
Ça ne se fait pas en une semaine, c'est beaucoup plus profond que ça. Une hypothèse qu'on peut faire, c'est le fait que ce quinquennat est renforcé pour différentes raisons. La pratique du pouvoir par Emmanuel Macron, la crise, notamment celle du Covid, est renforcé le caractère très présidentialiste, mmh, et très concentré du pouvoir politique en,
puisque,
France.
Puisque c'est lui qui décide de tout, on n'a pas besoin d'aller voter pour les autres.
Et un peu, c'est ce que j'ai appelé le syndrome « appelez-moi le patron ». C'est-à-dire, on va voter, et ce serait moindre mal, encore à la présidentielle, mais toutes les élections intermédiaires se sont dévitalisées. On se dit, voilà, une région de gauche ou une région de droite, on ne va pas arrêter de financer les lycées, les transports en commun, ouais, on va peut-être mettre un peu plus de sécurité.
En gros, on se dit, ça ne changera pas grand-chose.
Ça ne change pas grand-chose à ma, ouais, vie quotidienne. Beaucoup de militants qui font du porte-à-porte depuis très longtemps se heurtent à des réflexions du type, mais la politique ne peut rien pour moi, donc je ne vois pas ce que je pourrais... faire pour la politique, et je ne vais pas me déplacer. Et,
vous êtes en train de me déprimer un petit peu, faut que je vous le dise.
Non, non, mais il faut regarder les choses en face. Ouais. On peut penser, on peut espérer que ce soit une parenthèse, mais quand vous regardez les courbes au long cours, on est quand même sur une espèce d'escalier avec des marches qui sont descendues progressivement, et c'est pour ça que j'insistais sur ce qui se passe dans la jeunesse, puisqu'elle est assez prédictive de ce qui se passera demain, ouais, en fait. Et donc, alors, ça ne veut pas dire que cette jeunesse est complètement dépolitisée. Elle peut s'intéresser à des causes ponctuelles. On voit bien sur le combat écologique, par exemple. Mais on va être sur un engagement qui va être intermittent et qui ne va pas forcément passer
par
le vote. Mmh. En disant, ben, moi, je milite pour une cause, j'ai X milliers de followers sur ma page Facebook et je fais plus avancer mes idées qu'en allant voter.
Jérôme Fourquet, on va quand même décortiquer un peu les résultats. Déjà, la prime au sortant qui a été très forte, c'est un vote d'adhésion ou c'est une victoire par défaut compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire sur la faible participation ?
Alors, il y a sans doute un satisfecit quand même pour les présidents de région. On se souvient que pendant la crise du Covid, ils ont été très présents comme les maires pour venir en soutien de leur population respective, en commandant des cargaisons de masques et n'oubliant pas au passage de mettre le petit logo de leur région sur le masque. Donc il y a quand même un satisfecit. Mais il y a aussi le fait structurel que quand on a un électeur sur trois seulement qui va voter, on a un corps électoral qui est plus âgé, plus inséré, plus intéressé à la politique et qui souvent est plus, on va dire, maillé par différents types de réseaux associatifs, économiques ou autres. Et donc là, on est sur un public qui a pu être touché positivement par l'action de la région qui arrive à les faire voter, entre guillemets, un public qui lui est relativement acquis. Et donc ces noyaux durs pèsent d'un poids d'autant plus fort que l'abstention est massive, en fait.
C'est ça, les fidèles y vont. Donc,
voilà, et donc on a des scores en boulet de canon pour la gauche ou pour la droite. Madame Delga en Occitanie pour le PS, 40% au premier tour. Laurent Wauquiez, plus de 43%. Premier tour, c'est des scores jamais vus.
C'est des scores énormes. Alors, boulet de canon, pas pour le Rassemblement National. On est obligé de constater que les sondeurs qui voyaient un RN très fort, sur le point de remporter 4, 5, peut-être 6 régions, se sont plantés. Comment vous l'expliquez, ça ?
Alors, nous, à l'IFOP, on s'était dit qu'il y a une région qui pourrait basculer, c'est PACA. Sur le reste, on était beaucoup plus prudents. Néanmoins, effectivement, on attendait le Rassemblement National à un niveau beaucoup plus élevé. Historiquement, on avait un autre problème avec le Front National, c'est que une partie de leurs électeurs ne nous avouait pas, ou ne nous disait pas qu'ils allaient voter pour le Front National.
Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus le cas.
Maintenant, c'est complètement décomplexé. On a un autre problème, c'est qu'ils nous disent qu'ils sont sympathisants du Front National, qu'ils vont aller voter, sauf que toute une partie d'entre eux n'y est pas allée. D'où l'admonestation, un petit peu sur un ton de maîtresse d'école de Marine Le Pen et d'un certain nombre de ses lieutenants pour essayer de sonner le tocsin, de remobiliser leurs électeurs. Donc il ne faut pas tirer des conclusions abusives, des rapports de force, et rappeler quand même que même si c'est une contre-performance pour le Rassemblement National, par rapport à ce qu'ils pouvaient attendre ou espérer, c'est quand même une moyenne nationale de 19%. Il y a beaucoup de partis.
En net recul par rapport à la moyenne nationale du premier tour il y a 6 ans.
Alors, il y a 6 ans, on était à 28%.
C'est ça, presque 10 points de moins.
Mais on était 3 semaines après les attentats du Bataclan. On est dans un contexte terroriste qui avait énormément poussé. Et donc, on se compare, si vous voulez, pour ce qui est du Front National, à une cuvée qui avait été exceptionnelle. Là, le 19%, ils ne l'ont jamais fait, hormis ce scrutin-là. Mais c'est effectivement un désaveu. Et du point de vue des sondeurs, c'est un problème pour nous, puisque alors on est devant un os, là, sur des électeurs qui nous disent qu'ils vont aller voter et qui, même quand on les pousse dans leur retranchement, finalement, n'y vont pas.
Être fort en local et faible au national comme En Marche, ou inversement, non, plutôt fort au national comme En Marche et faible en local, ou inversement pour les Républicains qui, eux, sont forts en local et faibles en national, c'est une incongruité, ça, ou pas ?
Vous voyez, c'est une autre manifestation du fait que notre système politique est complètement déréglé. On disait tout à l'heure nos régions bleues, nos régions roses. Là, aujourd'hui, on a les symptômes, comme au municipal, d'une déconnexion totale entre la sphère nationale et la sphère locale. La sphère locale où les partis de l'ancien monde, pour parler comme le président de la République, font de la résistance. Ça a été le cas au municipal, c'est le cas au régional. Et puis, des partis qui sont appelés éventuellement à organiser et structurer la prochaine présidentielle. Alors, il faut être prudent, parce que ce ne sera peut-être pas ça, finalement. Mais La République En Marche et le RN, qui ont des difficultés d'implantation. La République En Marche, au premier tour des régionales, c'est 11% en moyenne pour leur liste.
Ce qui est faible.
Voilà, ce qui est faible. Historiquement, en 2010 et 2015, quand le parti présidentiel, donc la droite en 2010 et le PS en 2015, sous François Hollande, se présentaient, leur candidat recueillait à peu près un quart des suffrages.
Ouais.
Donc là, 11, c'est très faible.
Sauf qu'ils avaient une implantation historique.
Cette implantation peine à se concrétiser, même si, alors ce ne sont que des sondages, mais la cote de popularité du président de la République et les intentions de vote pour la présidentielle sont très bonnes. Mais à l'appui de ces sondages, on a un scrutin qui était à dimension nationale, les européennes, en 2019, où le Rassemblement National et la République En Marche ont fini en tête.
Les deux premières places.
Et puis, en 2020, les municipales, flop pour ces deux partis, la résistance de la gauche et de la droite qui ont été inexistantes aux européennes, et rebelote au régional.
Merci Jérôme Fourquet. Merci pour ce décryptage d'être venu en direct dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui fait autorité. Maintenant, c'est L'Archipel français, publié aux éditions du Seuil. Merci à vous d'être venu nous voir. À suivre l'œil de Natacha Polony. Au lendemain de ce premier tour des régionales, la directrice de Marianne se pose une question, une seule. Bon, ben maintenant, on fait quoi ?
Thomas Soto, RTL Soir.
18h31.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Le rappel des titres, Amandine Bégaud.
Et les candidats au second tour des régionales ont jusqu'à demain pour déposer leur liste et sceller d'éventuelles alliances demain 18h. C'est déjà chose faite ce soir en Ile-de-France où les trois listes de gauche s'unissent autour de Julien Bayou, arrivé troisième hier. Un non-sens, dit ce soir Valérie Pécresse, la présidente sortante, largement en tête à l'issue du premier tour.
Le Parti Socialiste en Ile-de-France, il a perdu son âme. Il a accepté de faire une alliance avec les amis de M. Mélenchon. Avec une gauche qui aujourd'hui a perdu sa boussole républicaine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Hidalgo. Moi, je crois que quand on parle de front républicain et qu'on veut faire barrage aux extrêmes, on fait barrage à l'extrême droite autant qu'à l'extrême gauche. Parce que je crois que même si ce n'est pas la même histoire, même si ce n'est pas la même histoire politique, je pense que les conséquences d'une arrivée de M. Mélenchon et de ses alliés à la tête d'une région seraient tout aussi dramatiques que celles de l'arrivée du Rassemblement national.
En région PACA, pas de triangulaire finalement. Jean-Laurent Félizia, le candidat écologiste, annonce son retrait. Il appelle ce soir à voter Renaud Muselier pour battre Thierry Mariani. Dans l'actualité également ce soir, le procès des harceleurs de Mila, cette jeune femme menacée de mort sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo critiquant l'islam. 13 personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris, un procès qui doit durer jusqu'à demain. Et puis du foot, avec ce premier coup dur pour les Bleus à l'Euro, le forfait confirmé d'Ousmane Dembélé. En ce moment même, l'Ukraine affronte l'Autriche qui mène 1-0, 1-0 également pour les Pays-Bas face à la Macédoine. Ce soir, la Finlande va tenter de décrocher sa place pour la suite face à la Belgique, déjà qualifiée. La Russie, elle, sera face au Danemark. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL. RTL Foot spécial Euro, c'est, on vous le rappelle, dès 20h45.
Merci Amandine. La météo, Louis Baudin, les orages, c'est bientôt fini ou pas ?
Et c'est bientôt fini, mais pour ce soir, il y en a encore. Je pense à la fête de la musique, notamment dans le nord et le nord-est. La prévoyez quand même une solution de repli, parce qu'à un moment, il y aura forcément une averse, voire un orage quasiment de la Champagne jusqu'à l'Alsace. Il y en aura un peu autour du Massif central ou encore du côté du Pays Basque. Alors demain, nous retrouvons cette instabilité. Elle se calme un peu avec la nuit, mais elle repart de plus belle en cours de journée. Ça concernera toutes les régions. Alors, ça sera quand même plus espacé, comme un peu aujourd'hui, entre deux averses, entre deux orages. Mais il y en aura encore quasiment partout, peut-être un peu moins près de la Manche et pas du tout près de la Méditerranée. Puis côté température, ça baisse encore. Demain après-midi, 16 à 20 degrés seulement dans la moitié nord. Ouais. Après les 35, vous voyez, on perd 20 degrés, moi aussi. 21 à 24 degrés dans le sud-ouest et 25 à 28 degrés dans le sud-est.
C'est comme la politique, la météo, ça manque de nuances en ce moment.
C'est un peu ça, oui, on passe à l'extrême.
Le populisme météorologique.
Oui.
Même si vous n'y êtes pour rien. Merci beaucoup, Louis. Nous sommes lundi, c'est l'œil de Natacha Polony qui s'ouvre sur l'actualité dans RTL Soir. Bonsoir, Natacha.
Bonsoir.
Alors depuis hier, on commente, on recommente, on surcommente les résultats du premier tour des régionales et des départementales. Le fait majeur, c'est évidemment le taux d'abstention. Et on peut se dire, bah, tant pis pour les Français, ils n'avaient qu'à aller voter finalement, ou alors on s'inquiète ?
On va être clair, une démocratie sans citoyens qui décident du destin commun, c'est tout simplement plus une démocratie. Donc 67% d'abstention, c'est pas un événement qui mérite, alors qu'on parle de séisme le dimanche soir, avant de passer à autre chose. Ça signifie que la machine implose. Mmh. Alors évidemment, les causes, on les connaît. Il y a d'abord ces élections, précisément. Franchement, mais enfin, quel est le tordu qui a imaginé des élections régionales à liste départementale le même jour que des élections départementales? Et puis, alors, dans l'urne, dans l'une des deux, on peut se maintenir au-dessus de 10%. Dans l'autre, il faut 12,5% des inscrits. Enfin, je suis même plus sûre. Je vous mets au défi de comprendre les règles du jeu. On a en fait un énorme problème institutionnel, avec une répartition des pouvoirs, un millefeuille administratif délirant. D'ailleurs, le seul endroit où les électeurs se sont déplacés, c'est en Corse, parce que là, il y a un enjeu, il y a une collectivité autonome avec des gens qui veulent défendre une spécificité régionale.
Mais Natacha, c'est quand même un petit peu aussi aux électeurs de se prendre en main. On a l'impression que personne n'est jamais content, ça râle, ça grogne tout le temps, mais qu'au moment de décider, paf, il n'y a plus personne, tout le monde se dérobe.
D'où le fait qu'il faut une réflexion institutionnelle. Par exemple, comptabiliser le vote blanc et décider qu'au-delà d'un certain taux d'abstention et de vote blanc, l'élection n'est pas valable. Mmh. Là, ça permet aux électeurs de faire savoir qu'ils ne se reconnaissent pas dans le choix qui leur est offert. En fait, il y a des réformes institutionnelles possibles, mais ça nécessite que toute la classe politique,
puisque c'est eux qui décident, comprennent que le statu quo n'est pas tenable, que ça va finir par exploser dans la rue si on continue à n'avoir aucune traduction politique de la colère. Parce que même les indifférents, même ceux qui considèrent que ça sert plus à rien de voter, que rien ne change jamais, nourrissent en fait une colère qui peut un jour exploser. Nier ça, comme le font actuellement certains commentateurs, c'est irresponsable.
Oui, sauf qu'on peut dire que ça va continuer. Natacha, on va commenter la victoire des LR des sortants et on attend la prochaine.
D'où l'importance aussi de s'interroger sur la responsabilité des médias, des journalistes. À quoi ressemble le paysage médiatique ? C'est l'extension infinie du modèle des débats de chaînes d'infos. Les sujets sont pas sélectionnés en fonction de l'importance journalistique qu'on leur accorde, mais en fonction de l'audience supposée qu'ils vont faire. Et les débats se font entre des invités les plus caricaturaux possibles pour qu'il y ait du clivage, parce que sinon on a l'impression qu'il se passe rien. Résultat, il n'y a plus d'émissions politiques de fond. Il y a des débats sociétaux qui ont lieu sur les plateaux de Cyril Hanouna avec des politiques qui y vont pour se faire croire qu'ils sont proches des gens. Là aussi, il va falloir une sacrée introspection de tous les acteurs du système. Parce que c'est pas un hasard si les citoyens englobent les médias dans leur détestation des supposées élites. Alors, on fait quoi ? On continue comme ça jusqu'à l'explosion ?
Dis donc, je peux pas vous signaler quand même l'émission qui s'appelle Vous avez la parole sur France 2. On nous dit qu'on est chiant tellement on est sérieux. Donc, quand même, on essaie d'être un peu rigoureux.
Mais il faut continuer et il faut le faire le plus possible et il faut qu'il y ait le plus possible de débats pédagogiques. En fait, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Il y a un système qui est en train de dicter sa loi à l'ensemble des médias.
Bon, Natacha, comme je vous sens un peu tendue, un peu fatiguée, un peu dépitée, on va vous faire un petit cadeau pour la fête de la musique. Ça, c'est pour
c'est
vous.
Gentil.
De mes tristesses reste un grand manteau qui laisse passer le froid. De ces lambeaux de jeunesse, un vieux chapeau qui ne me protège pas. Je sais mieux choisir le chemin, me méfier d'une main.
Tu vois, je ne sais rien.
Le temps qui passe
ne guérit de rien. Natacha, tu le sais bien.
Natacha de Jean-Jacques Goldman par Natacha Polony.
Et c'est un cadeau pour nous deux, Thomas.
Bon, d'accord,
ça vous fait plaisir
cadeau,
aussi.
Moi aussi. Merci beaucoup, Natacha. Demain, c'est Philippe Cavrivière qui sera avec nous pour l'œil du mardi sur RTL. Dans un instant, on va en boîte hein, puisqu'elles vont rouvrir. Jean Roch est l'invité d'RTL Soir. Il était avec Emmanuel Macron ce matin.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Cette fois, ça y est, les discothèques vont pouvoir rouvrir. Ce sera à partir du 9 juillet prochain, vendredi 9 juillet, avec protocole sanitaire, obligation de produire un pass sanitaire, vaccination ou test PCR ou antigénique négatif, et une jauge de 75% en intérieur. Bonsoir Jean Roch. Merci d'être en direct avec nous. Vous m'entendez, Jean Roch ?
Oui, je vous entends.
Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes DJ, directeur et fondateur de tous les VIP rooms, notamment celui de Saint-Tropez. Ça fait 15 mois, presque 16, que les clubs étaient fermés. On imagine que cette décision vous soulage largement, que vous êtes un homme heureux ce soir.
Je me sens, pour la première fois depuis ces longs mois, un homme et une profession et toute une jeunesse de nouveau libre de pouvoir retrouver cette sensation qui a nul autre pareil, celle des clubs, celle des discothèques. C'est la profession qui a été la plus sanctionnée. C'est la profession qui a été qui a traversé la période la plus difficile parce que c'est une longue période et il n'y avait pas de solution. Et surtout, même si elle n'a pas participé ni au deuxième ni au troisième rebond, elle a été tout le temps marginalisée. Et je trouvais que c'était une véritable injustice. Et aujourd'hui, la position et le courage de la décision qu'a pris notre président de la République démontre bien que c'est un nouveau départ pour cette profession, pour ce loisir incroyable qu'est le clubbing.
C'est un nouveau départ, mais il y a de la casse hein, dans le secteur, il y a du dégât.
Il y a beaucoup de dégâts. Ce matin, lors de la réunion au Palais de l'Élysée, on a évoqué évidemment, mais c'était très difficile d'avoir une visibilité sur la situation avec la santé. Personne, aucun pays n'a pu prendre des décisions meilleures que les autres, parce que concrètement, ce virus, pour apprendre à vivre avec, il fallait aussi le découvrir. Pour voir, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a quand même le vaccin est en route. Près de 30 millions de Français ont eu la première dose. Les choses ont changé. Il y a un an, pas une seule personne n'était vaccinée en France. Il y avait peu de perspectives, peu de solutions. Et évidemment, il y a eu de la casse. Alors certains ont pu se réinventer, se recycler dans de la restauration, dans de la restauration festive. On fait comme on a l'été dernier, par exemple, quand le VIP Room a été fermé, une majeure partie de pour tenir la promesse des salariés du VIP Room ont été, on les a recyclés en serveurs de restaurant. Ils servaient des pizzas à la place de bouteilles de champagne. Mais il fallait bien vivre avec son époque. Il fallait bien s'en sortir. Ça a été une période qui a été très compliqué, mais ça nous a permis de garder un contact avec le public. Mais évidemment, c'était pas simple, il a fallu combattre.
Vous avez parlé d'injustice tout à l'heure. C'est l'injustice du Covid ou c'est l'injustice des politiques qui ont été menées?
Non, c'est l'injustice Covid. Je pense pas que les politiques aient pris une décision qui n'était pas appropriée parce que personne ne pouvait deviner. Toutes les décisions qui ont été prises, il y en a certaines qui étaient bonnes, certaines qui ne l'étaient peut-être pas. Je ne sais pas. Je suis pas expert ni virologue. Je dis simplement que c'est une injustice que il y a toujours eu une image sur la nuit qui a toujours été un peu spécifique. On a tendance à retenir que la foule, que l'engouement, que la proximité.
Après,
etc.
C'est vrai qu'on se touche, mais, qu'on se frôle,
comme je l'ai dit,
qu'on aime être ensemble.
Pas plus que pas plus que dans les concerts quand on est côte à côte et qu'on lève les bras et qu'on a un camarade à côté qui saute et qui chante les chansons de l'artiste. On est tous confrontés. Et puis ça arrive, comme je vous dis, dans les transports en commun. Ça arrive dans des tas de situations. Aujourd'hui, ça aurait été impensable de pas imaginer que les discothèques réouvrent alors que les mariages sont de nouveau autorisés, alors que les boîtes échangistes sont de nouveau autorisées, alors que les échanges ce matin avec notre président ont été bien clairs. Je ne sais pas si on sera parfait. Je ne sais pas si les discothécaires nous seront parfaits. Nous allons mener une action pour accompagner la jeunesse, lui permettre de retrouver une sensation et retrouver le plaisir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous serons bien meilleurs que les fêtes sauvages qui ont lieu quotidiennement, que les rave parties, que toutes ces dérives sociales et qui emmènent notre jeunesse sur le mauvais chemin. Nous, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on est là pour les encadrer, on évitera beaucoup d'accidents et surtout, on permettra que notre jeunesse soit encadrée, heureuse et dans des bonnes conditions.
Je vous sens ému, Jean Roch.
Pardon ?
Je vous sens ému.
Je suis ému parce que c'est la fin de... c'est la fin d'un truc que j'ai encore du mal à réaliser, qu'on va pouvoir refaire notre métier. Et c'est un peu les paroles que j'ai tenues ce matin avec notre président, avec la ministre de la Culture, avec Monsieur Griset qui a été brillant, qui nous a beaucoup aidés, nous a permis de tenir la promesse des loyers, des propriétaires des murs, etc. C'est une accumulation d'émotions, c'est le bout d'un combat, c'est 15 mois à faire un métier que moi j'avais jamais fait. Je n'ai aucune ambition politique, je ne fais partie d'aucune organisation, d'aucun syndicat, et je me suis retrouvé à défendre des gens qui sont de tout univers très différent, des gens que j'ai encouragés l'année dernière à faire de la restauration, qui me disaient mais tu sais, nous on sait pas faire ça, nous toute notre vie on a fait des clubs, ça fait 50 ans qu'on a des clubs, véritablement des discothécaires. Et les gens, je les ai sentis dans la difficulté. Je recevais des messages de gens qui avaient des campings, qui avaient des dancing et qui étaient complètement perdus face à cette situation, et j'essayais comme je pouvais et de les encourager et s'accrocher un petit peu à mes sorties médiatiques. J'ai fait tout ce que j'ai pu pendant 15 mois pour que la nuit revoie le jour. Et j'ai l'impression que ces gens-là vont pouvoir tenir la promesse à partir du 9 juillet.
Et la formule est très jolie, hein, pour que la nuit revoie le jour. Jean Roch, il y a, on le disait, un protocole sanitaire qui est strict. On pourra danser sans masque. Est-ce que les clients auront le droit de s'embrasser en boîte de nuit?
Je sais pas, alors là ça dépasse
Emmanuel Macron nous a rien dit là-dessus.
Dire à deux personnes qui se plaisent ou qui se de ne pas s'embrasser, je sais pas, je vous avoue que j'ai pensé à évoquer plein de choses ce matin avec le gouvernement. J'ai pas pensé à cet épisode-là. J'aurais dû vous emmener avec moi. vous m'auriez soufflé, vous seriez intervenu judicieusement. Je sais pas vraiment si Je ne sais pas si, mais pourquoi pas. En même temps, je pense que les gens qui vont rentrer avec un pass sanitaire. Les gens qui vont rentrer sont des gens qui sont vaccinés. Nous, par exemple, au sein de nos équipes à VIP Room Saint-Tropez, moi, j'ai demandé à ce qu'ils anticipent dès le printemps à avoir les vaccins. On doit être, nous, les premiers prêts à accueillir le public en étant vaccinés. On doit montrer l'exemple et c'est nous, les premiers, qui devons apporter ce gage de sécurité. Et puis, vivre dans ce monde, vivre avec ce virus, c'est vivre dans ce monde moderne. Et vivre dans ce monde moderne, c'est aujourd'hui accepter d'être vacciné pour pouvoir sortir, pour pouvoir voyager, pour pouvoir exister.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Jean-Roch d'avoir été avec nous. C'est la fête de la musique. On a demandé un titre que vous aimeriez entendre et vous avez choisi Daft Punk, hein, Giorgio Bar Moroder, c'est ça?
Exactement.
Et ben, le voilà. Beaucoup. Il est pour vous et bonne fête de la musique. Et bonne
merci, bonne fête de la musique à vous aussi. Merci.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Et c'est peut-être sur cette musique des Daft Punk que le prince William, 39 ans aujourd'hui, va fêter son anniversaire. Du coup, Julia Molcou, toujours à la recherche de son prince, a décidé de les célébrer, les princes. Ça se passe tout de suite dans la culture de l'actu. A tout de suite et bonne fête de la musique.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Un jour, son prince viendra, mais c'est pas ce soir. Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir.
Parce qu'on va parler du prince William qui fête ses 39 ans et qui est déjà largement en main, je crois. Je suis à jour des informations que me communique Louis Baudin en permanence sur
c'est
le Gotha.
C'est pas mon premier choix, c'est-à-dire. Ah,
c'est pas votre premier choix. Bon, ça dit, votre choix, c'est de nous parler des princes dans la culture.
Un jour.
Bon, c'est pas ce soir, mais de toute façon, je commence sérieusement à douter de l'arrivée prochaine d'un prince charmant.
Oh non,
mais ça n'est pas le sujet. Moi aussi, mais vous le savez très bien. Bon.
Oh.
Allez, on ne peut pas vraiment dater la naissance des contes merveilleux français qui, depuis la nuit des temps, racontent les aventures des princes. Mais ce qui est certain, c'est que depuis toujours, les princes sont des héros plus forts encore que les dieux de l'Antiquité. Ils sont plus beau que le jour, plus costaud que cinq hommes, courageux et bons camarades. Et évidemment, on s'intéresse beaucoup plus à leur vie sentimentale qu'à la politique de leur royaume. C'est toujours la même chose. On cherche à marier le prince, qui bien souvent n'y tient pas, voire même y est carrément opposé. Mais lors d'une partie de chasse, ou en manquant de mourir noyé, ça alors, ils sont finalement tombés amoureux.
Prince Ali, sa seigneurie, Ali à Babwa.
Aladdin fait croire à Jasmine qu'il est un prince qui se déguise en mendiant pour fuir les mondanités du palais. Il s'appelle Prince Charmant dans Cendrillon et Moïse est le prince d'Égypte qui libère les Hébreux. Eddie Murphy est un prince à New York qui veut épouser une femme qu'il aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a. Quant à Will Smith, il est bien sûr le prince le plus stylé du quartier de Bel-Air.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Mais le plus petit des princes, celui qui ne voit bien qu'avec le cœur, on ne le trouve ni chez Perrault ni chez Grimm, encore moins chez Walt Disney ou à Los Angeles, non. C'est bien à Antoine de Saint-Exupéry qu'on le doit.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Le Petit Prince. Le Petit Prince est un voyage philosophique et poétique.
Quand il rencontre le renard.
Oui.
Apprivoise-moi.
Oui.
J'adore.
On dirait que vous avez lu ma chronique.
Non.
Et même pas. Un voyage de 93 pages pendant lesquelles ce petit prince, représentant l'enfance dans sa plus grande pureté et naïveté, va faire des tas de rencontres. Alors, avant le renard, il y aura le roi, la rose, le buveur, le serpent, l'allumeur de réverbère, tous ayant des comportements absurdes et des vices. Tout sauf l'aviateur, qui n'a pas oublié ce que c'est qu'être un enfant, et puis le renard,
ah bah
bien
voilà,
sûr,
pardon.
Qui lui explique ce que veut dire le mot apprivoiser et l'immense pouvoir de l'amitié. Publié en 1943 à New York, simultanément en anglais et en français, Le Petit Prince a été traduit en plus de 300 langues, ce qui en fait, tenez-vous bien, l'œuvre la plus traduite au
tenez-vous,
monde
Louis, s'il vous plaît.
Après
tenez-vous.
La Bible. Vous étiez bien tenu. Bon, lui aussi, il était assez petit, mais surtout pour beaucoup, il était Dieu.
Prince,
né le 7 juin 1958 et mort le 21 avril 2016, séducteur, malicieux, capricieux, immense star du rock, de la funk, de la soul. Acteur, danseur, icône sexuelle, Prince détestait qu'on l'enferme dans une case et remerciait Dieu chaque jour pour le don qu'il lui avait accordé. Et comme dans la chanson de Michel Berger, eh bien il vivait plus vite que les autres, il avait un pied dans le futur, il vibrait au rythme des guitares, un vrai prince des villes quoi.
Et les princes des villes
pas besoin d'armure. Dans les grandes voitures, les rêves sont faciles.
Voilà mes princes.
Oh. Et les princes qui sont en train de nous écouter, qui s'intéressent à Julia Molcou, ça se mérite, hein, on vous prévient.
Mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile.
Pour info, elle aime les fleurs, elle aime le chocolat. Je vais envoyer au boulot pour aller partager.
Des idées bizarres. Vibre au rythme des guitares. Des rock and roll stars.
Là, on est un peu embêté. On a à la fois envie de connaître le temps qu'il va faire demain
et d'écouter
encore, Michel,
hein,
Berger. Ouais, hein. Ouais. On le garde un peu en fond. Ouais, ça va,
ouais,
hein,
Louis.
Demain, ce sera instable. Il y aura quelques éclaircies, il y aura des averses, il y aura des orages. Il y a un peu de tout, en fait. Hein,
bah, il y a un peu de tout, comme aujourd'hui. C'est vrai qu'on retrouvera à peu près la même situation avec donc, ces passages nuageux, ces éclaircies, puis de temps en temps des averses.